Singing, dancing, music, wise cracks.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandra Freeman.
New York, ville monde, millefeuille culturel. Des influences des migrants juifs de l'Est à la mémoire musicale noire, en passant par les latinos, nous allons effeuiller New York en levant le rideau de sa scène Broadway. Broadway comme fenêtre sur l'enrichissement culturel de New York, c'est ce soir, en partenariat avec Léo, à partir 21h.
France Inter. La différence.
15h04 sur Inter, là-bas si j'y suis, c'est avec Daniel Hermé.
Ces émissions où on n'entend rien sont insupportables. C'est Philippe de Paris.
Moi, le 21 avril, ça me fait penser à une phrase de Suran. Sauf que j'en changerai la fin. Suran écrit dans un ouvrage intitulé en plus « La chute dans le temps » « Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute ». Eh bien, je remplace « doute » par « catastrophe ». Suran revue par Paul Virilio. Parce que, si tous les Français gardent en mémoire la date du 21 avril 2002, et les médias ne manquent pas de la leur rappeler, afin qu'ils se souviennent avec effroi du premier tour d'une élection présidentielle qui vit un candidat d'extrême droite se qualifier pour le second tour. Je parie que très peu se souviennent que le 21 avril célèbre un événement autrement important dans l'histoire de notre civilisation. C'est la date de la légendaire, il est vrai, fondation de Rome, en 753 avant notre ère. 21 avril, moins 753, Romulus crée la ville de Rome. Curieuse, non, cette coïncidence entre un des événements fondateurs de notre civilisation du côté du mythe et 2755 ans plus tard, la menace de son effondrement du côté de la réalité cette fois.
Bonjour, je vous appelle pour vous alerter que je suis demandeur d'emploi et aux minima sociaux et le gouvernement Sarkozy est en train de bloquer tous les minima sociaux. Sans aucune justification, si ce n'est que de soi-disante rigueur. Et il bloque non seulement une dame de Pôle emploi, m'a dit qu'il bloque aussi certains salaires des employés de Pôle emploi. Je suis sans ressources, c'est carrément une mise à mort, ça. C'est vraiment écœurant, écœurant. Merci, au revoir.
Bonjour, je vous raconte une petite scène de rue vécue tout à l'heure en allant au boulot. C'est une vieille dame qui marche lentement et qui s'engage sur un passage clouté. Au moment où, vous avez ces grosses berlines très chères aux vitres teintées arrivaient très vite, alors la bagnole doit freiner brusquement, le conducteur baisse la vitre et il lance ironiquement à la piétonne une toute petite, un peu voûtée, insignifiante pour lui, quoi. Alors la petite dame, on doit se faire écraser? Et la vieille dame, de la tête, d'une voix ferme, elle lui lance bien dans les yeux. Rien que ta voiture, c'est une insulte à la démocratie. Condoléances, pauvre type. Et elle repart, tout aussi lentement et voûtée. C'est vraiment une seconde réjouissante pour toute la journée.
Bonjour Daniel, c'est Christian Adjage de Marseille. Je suis en train d'écouter l'émission sur Jean-Charles Naouri. Quel parcours. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre cette assemblée d'actionnaires toutes dévouées à son directeur, ceux qui se sont fait piller, notamment par certaines banques, surtout Natixis. Est-ce que le fait de posséder des actions, ça pousserait pas à l'autisme social? Bonne journée à toi.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 5 avril dernier, dans un grand hôtel parisien, s'est tenue une convention sur la laïcité et le judaïsme. La veille, lors d'un déplacement à Nantes, le ministre de l'Intérieur motivait la tenue de ce débat par le fait que, je cite, « l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion et un certain nombre de comportements pose problème ». Il déclara également « l'action interpelle nos citoyens nombreux sur ceux qui pensent qu'il y a des entorses à la laïcité ». En 1905, il y avait peu de juifs en France. Aujourd'hui, il y en a entre 5 et 6 millions. Cette question refleurit régulièrement dans les médias depuis plusieurs années. En juin 2008, déjà un éditorialiste écrivait dans l'Express, je cite, « Les juifs de France doivent comprendre que l'on ne peut être juif dans un pays qui ne l'est pas, comme s'il l'était ou comme s'il allait le devenir. » En 2010, le fameux ex-président du Conseil général de Vendée tire son livre « Les synagogues de Roissy, une nouvelle révélation sur la judaïsation de la France ». Le 6 janvier cette année, un sondage IFOP publié dans Le Monde révélait que 42% pensent que la communauté juive représente une menace pour le pays. Le 5 avril, donc, lors de cette convention sur la laïcité et le judaïsme, la ministre de l'Enseignement supérieur rassurait les Français inquiets en nous informant qu'une mission avait été confiée à un éminent politologue pour comprendre le monde juif contemporain. Le ministre de l'Intérieur se voulait également rassurant en déclarant « Je pense que nous avons trouvé un bon terrain d'entente et qu'ils ont compris la démarche suivie et que cette démarche ne stigmatise en aucune façon les juifs ». Ah, pardon, on me signale que j'aurais fait une erreur dans mon texte. Il ne s'agit pas de juifs et de judaïsme, mais de musulmans et d'islam. Autrement, tout le reste est vrai. C'était Yann de Foyon.
Merci pour ces messages, chers AMG. Merci pour ces messages, avec toujours les affres de choisir chaque jour. Hein, parce qu'évidemment, on ne peut pas passer. Ils sont particulièrement intéressants, vos messages, en ce moment, ces jours-ci. Là, c'est passionnant, mais hélas, on ne peut pas tous les passer. Alors, vous avez entendu, à son de trompe, France Inter proclame les bons résultats d'audience de ces derniers mois. Et c'est très bien, on est tous très contents de cette audience, et notamment là-bas, j'y suis aussi, dont l'audience a également notablement augmenté. Mais là, on se dit, mais combien on pourrait vous vendre, amis auditeurs, ça en fait des belles paires d'oreilles, hein, à vendre. Ben oui, et c'est quand même, on est dans ce, voilà, à des annonceurs, on a quelques petits annonceurs, nous, de temps en temps. Il y en a pas beaucoup, il y en a un peu, mais il y en a beaucoup quand même sur France Inter. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes si fidèles et de plus en plus nombreux à être fidèles. Mais combien on pourrait vous vendre, hein, et 30 secondes de publicité sur l'antenne de France Inter, il y a des moments de la journée, c'est quand même au-delà de 10 000 euros. Et les 30 secondes, plusieurs fois, 30 secondes, c'est quand même tentant, hein, de... Voilà, combien on pourrait vous vendre. Vous rigolez, vous dites, mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui à Mermel? Eh bien, c'est ce qu'il y a quelques années, c'est passé comme ça à La Poste, ça s'est passé comme ça à EDF, ça s'est passé... Il y a un gars qui a dit, mais comment on pourrait les vendre? Tous ces petits clients qui viennent acheter des timbres, qui mettent des lettres dans les boîtes à lettres, qui avec le petit facteur, combien on pourrait vendre ça? Eh bien, ça s'est fait. Ça c'est fait, et on va revenir sur la privatisation de la Poste. Histoire de, avec le, il faut prendre du recul dans tout ça, parce que on voit, alors on est indigné, on se mobilise, on pétitionne, on arrive parfois à faire une manif ou deux, et puis ça retombe. Voilà, on essaie, l'actu avance, l'actualité avance, et voilà, il faut. C'est ceux qui organisent ces grands bouleversements ont le temps avec eux. Ils ont des années avec eux. Et évidemment, tenir des luttes et des oppositions sur la durée, c'est la chose la plus difficile du monde. Et c'est pourtant comme ça, c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. C'est d'avoir du souffle et de tenir longtemps. En tous les cas, la Poste est privatisée. Et vous connaissez les résultats. Les résultats, c'est selon un sondage qui vient d'être publié et qui indique le désamour croissant des Français vis-à-vis de leurs entreprises publiques, de leurs services publics ou ex-publics, à cause de l'augmentation des tarifs, à cause des conditions de travail, à cause de la morgue générale, enfin de l'esprit général de tout ça. Eh bien, les entreprises publiques connaissent une popularité en forte baisse, selon une enquête d'opinion qui vient de sortir et qui pointe notamment les restructurations ou la déshumanisation. C'est une enquête qui a été publiée jeudi dans le quotidien Libération. Intéressant, non? Intéressant. Ça n'arrivera jamais à Radio France, ça n'arrivera jamais à France Inter. Vous pensez un bastion et un modèle, c'est vrai, je le pense personnellement, du service public. Mais jusqu'à quand? C'est une question qui peut nous hanter jusqu'à 16 heures dans la basse, si j'y suis aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel et à toute l'équipe. Gilles de ce beau département de la Manche nucléarisé. Ceci pour vous dire que le Café Repère à Bassigy Suisse de Coutances aura lieu ce soir jeudi à 20h30. au bar L'Oreille Cassée. Sujet, l'abstention, ce mal invisible, ou un mal invisible. Voilà, eh bien, à bientôt et bon courage à tous.
Salut Daniel, c'est l'emmerdeuse de service. Écoute, franchement, j'adore France Inter, c'est ma radio, c'est la radio que je préfère. D'ailleurs, vous êtes tous en vogue là, en ce moment. Mais alors là, ce matin, ils sont à Toulon, là. Je sais pas ce qu'ils ont été foutre. Il y a une espèce d'énergumène qui s'appelle Hubert Falco, qui vient de nous faire rire. Mais franchement, c'est mieux que le fou du roi. Hein, je te le promets, ça vaut des points. Je sais pas si tu l'as écouté, mais là, lui, il est trop drôle. Hein, franchement, c'est le copain Borloo qui est pas celui d'à côté, qui est machin, qui est bédule. On dirait du Pagnol. Je te jure, c'est de... je crois que c'est d'actualité. Je pense que Monsieur Pagnol, quelque part en haut du firmament, doit nous regarder et nous dire « Oh putain, tu m'as pris pour un con, là !» Ah, c'est trop drôle, je te jure. Faut écouter France Inter, hein. Des fois ça fait du bien parce que ça fait rire aussi. Allez, à plus, bon courage.
Bonjour Daniel. Bonjour les AMG. En peu de temps, une poignée d'investisseurs en col blanc se sont organisés pour jeter leur dévolu sur les terres cultivables à l'échelle mondiale. Leurs critères du choix des pays ciblés, qu'ils aient de l'eau et qu'ils soient sous-développés. La puissance de cette initiative financière repose sur l'argent, mais aussi sur la détresse des pays visés et la corruption de leur gouvernement. Conséquence à court terme, confiscation des terres des petits paysans, impossibilité aux pays pauvres d'accéder à une autosuffisance alimentaire, détournement de l'usage des terres au profit des cultures spéculatives, etc. etc. Daniel, nous avons bien besoin de toi pour traiter ce sujet. Merci encore pour toutes tes initiatives. Bruno de Toulouse.
Bonjour à tous. Nous vous annonçons la création d'un nouveau café repère de la Basse J'y suis dans l'Yonne. Car il faisait cruellement défaut dans ce coin de l'univers. Celui-ci aura lieu au Baroque Café, 4 rue du Pont, 89-140, Pont-sur-Yonne. C'est au nord du département, entre Sens et Montereau. Ce premier rendez-vous se tiendra aujourd'hui, jeudi 21 avril, à 20h pétante. Nous y débattrons librement autour du thème de l'école et de l'enseignement, mais aussi bien sûr de l'organisation, des attentes et des motivations d'un tel projet. Vu l'horaire choisi, nous vous conseillons de prévoir quelque chose à manger de facile à ingérer. À ce soir donc, pour baptiser ensemble ce nouveau lieu et ce nouveau lien de la citoyenneté en marche. Et que vive la libre pensée.
Bonjour aux AMG du Sud-Ardèche. Sortir du nucléaire, ok, mais par où? C'est la question que nous allons nous poser ce soir au Café Repère de là-bas si j'y suis, à Saint-Montant, au Petit Bistrot, à 20h30. Vous êtes invités. Merci.
Nous allons confier notre petit trésor aux seuls gens qui n'égarent jamais rien. Aux employés de cette administration que le monde entier nous envie. J'ai nommé les PTT.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Touche pas à ma poste.
Flight number 2, arriving from New York.
Christian Cozard, ancien directeur général délégué de La Poste.
Le monde a changé. Et le monde change. Si La Poste ne change pas, bah, quelque part, nous allons devenir un musée.
Danny Boone, comique, auteur du film Bienvenue chez les Ch'tis.
La Poste ! Mais La Poste n'est rien que la pub de La Poste !
Bougez avec La Poste !
Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à La Poste, hein ! S'il y a bien un endroit sur Terre où ça bouge pas, c'est à La Poste !
Parmi les critiques les plus fréquentes du public, c'est le temps d'attente au guichet qui arrive en premier. Fabien Chadeau et Antoine Armand.
Un bureau de poste à Arcachon, c'est comme partout ailleurs en France, il faut patienter. Patienter pour accéder au guichet.
Ça m'est déjà arrivé d'attendre trois quarts d'heure. Alors pour retirer deux recommandés que quelqu'un a eu la mauvaise idée de vous envoyer par recommandé, c'est franchement désagréable.
La Poste, rappelée à ses devoirs alors que l'entreprise devrait se transformer en société anonyme, début 2009.
À La Poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas.
C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics. Et il y a une explication à ça. C'est qu'à la poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a 1,5 d'ouverts.
Mais alors, ils veulent privatiser, mais personne n'achètera, même pas eux.
Non, mais non, la poste ne sera pas privatisée. Eh, confiance, petit poisson. La poste va être modernisée. Tu es contre la modernisation, petit poisson. La poste va être revalorisée. Tu n'es pas contre la revalorisation, petit poisson. Tu es contre le gâchis. Tu es contre la gabegie. Tu es contre l'argent fou. Eh bien, la modernisation de la poste va permettre de réduire les dépenses de l'État. Et confiance, petit poisson. Dents ? Quelles dents ? Ah, mes dents ! Ah, tu trouves que j'ai de grandes dents ? Oh, mais c'est pour mieux te protéger, petit poisson. C'est pour mieux te servir. C'est moi que tu as élu, petit poisson. Et puis tu le sais, nous n'avons pas le choix. Face à la concurrence, nous ne pouvons faire autrement que d'ouvrir le capital de la poste. Oh, juste un petit peu. Aie confiance, petit poisson. L'État restera majoritaire, bien sûr. Ah, comme France Télécom, c'était premier juré. Et aujourd'hui, l'État ne détient plus que 27% du capital de France Télécom. Aie confiance, les tarifs n'augmenteront pas. Ah, comme le péage des autoroutes après leur privatisation. Ne sois pas aussi méfiant, petit poisson. Aucun emploi ne sera supprimé. À peine va-t-on fermer encore quelques centaines de bureaux de poste dans les campagnes ou dans les quartiers populaires et réduire les horaires d'ouverture. Mais c'est tout. Il faut être rentable, petit poisson. Petit poisson, connais-tu la RGPP? Ça, c'est très important que tu saches ça, petit poisson. RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques. C'est bien, Révision Générale des Politiques Publiques. Surveiller les politiques publiques afin que chaque euro soit dépensé à bon escient. C'est bien, non? Oh, et tu sais à quoi sert la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques? Eh bien, écoute bien, petit poisson, à la mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Je te le répète, mise en œuvre de scénarios de réformes structurelles. Et ça dure, vois-tu, petit poisson, depuis des années, ce et ces scénarios de réformes structurelles. Et pourquoi donc? Eh bien, pour moderniser, pour revaloriser, des efforts constants pour réduire les dépenses de l'État, petit poisson. Voilà, tu n'es toujours pas d'accord? Tu es têtu, petit poisson. Tu es archaïque. Tu es conservateur. Voilà pourquoi cette heure t'est entièrement consacrée dans la base Si j'y suis. À 16h, tu diras merci, requin.
Oui, votre ticket pour accéder jusqu'au guichet. Il faut l'arracher de la machine accrochée juste à gauche après l'entrée. Allez vous asseoir avec les autres sur les beaux sièges en plastoc. Sur le ticket, un numéro qui s'affichera sur le panneau. Sur le panneau, il faut fixer, faut pas se rater. Et voilà, ah, c'est comme ça.
Et voilà,
ah, c'est comme ça. De vous déplacer, attrapez le combiné. Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Vous êtes en relation avec le service demandé. Chaque solution va vous être énumérée. On va vous aiguiller pour mieux vous diriger. Veuillez faire votre choix, confirmez-le avec la croix. Tapez 1 pour ceci, tapez 2 pour cela. Donc on est erroné, il n'est pas reconnu. Ton temps est écoulé, tu repars au menu. La ligne est coupée, t'as trop attendu. Tu connais la chanson, il faudra rappeler. Il s'étonne de ton insurrection, de ton envie de destruction, en te laissant
dans la confusion. C'est quelques mots et des échantillons. Et je tourne, encore un tour pour rien dans le rond-point. Et je tourne et j'attends, je désespère, qu'on me tende la main.
Philippe Fouillou, délégué syndical à Sud PTT.
Je pense personnellement qu'il y a une véritable volonté politique de créer, de désorganiser la Poste en tant que telle. Donc l'objectif était d'arriver à organiser ou désorganiser la Poste volontairement, présenter un service qui ne fonctionne pas, de manière à mener le public à justifier ce que ses dirigeants ont déjà préparé il y a plusieurs années. C'est-à-dire l'idée de privatiser la Poste. C'est ça la logique. Sauf qu'on sait très bien que dans les pays où ça a été privatisé, ils sont obligés de revenir sur des privatisations parce que ça fonctionne encore moins. Et c'est encore plus cher.
Eh oui, si l'on observe ce qui se passe dans les pays où la Commission européenne a réussi avec ses injonctions à la privatisation de la Poste, en Allemagne par exemple, eh bien le nombre de points de contact va passer en 20 ans de 30 000 à 5 000. En Suède par exemple, eh bien la privatisation a entraîné 25% des effectifs en moins dans les postes suédoises et 70% d'augmentation des tarifs. Et bien évidemment, vous avez compris, c'est simple maintenant, on a compris quand même. Les marchés financiers veulent se faire du fric avec la Poste comme avec le reste. C'est simple, c'est clair, c'est direct et on en voit aujourd'hui les résultats à travers le monde. Là, ça devient planétaire. Eh bien, quand même, malgré l'opinion publique qui quand même voit le vent venir, je le rappelle à 61%, un sondage récent CSA publié dans le quotidien L'Humanité indiquait que vous êtes, en tous les cas les Français, l'opinion française est opposée à cette privatisation, même si on l'a compris, le mot ne doit pas être prononcé. On est avec Philippe Fouillou de Sud PTT.
Bon, alors, on parle de privatisation de la Poste. Enfin, certains parlent de privatisation de la Poste. On sait que le président de la Poste, Bailly, et le porte-parole du gouvernement disent non, on privatise pas du tout. C'est un truc qui vient de tomber, c'est récent, cette affaire?
Alors, il faut savoir que la privatisation, en fin de compte, c'est, pour être plus clair, ça serait, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Il faut comprendre que ça fait au moins 15 ou 20 ans que la privatisation est en marche. Dans les bureaux de poste, concrètement, comment ça se passe depuis 15 ou 20 ans? Il a fallu transformer, en fin de compte, l'usager en client, transformer le guichetier en vendeur, introduire aussi la notion de chiffre d'affaires, parce que bon, la réalité de la privatisation, on l'a bien compris, c'est de présenter quand même aux futurs investisseurs un bilan aussi bien financier, comptable que humain, le plus acceptable possible.
On essaye de rendre la mariée aussi belle que possible pour que les investisseurs privés la trouvent vraiment, vraiment désirable.
Tout à fait, c'est ça l'objectif, il est là.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples les plus concrets possibles de ce à quoi on peut déceler ces évolutions que vous présentez, que vous dénoncez, quand, par exemple, eh bien, on arrive dans un bureau de poste pour faire une opération?
Alors, concrètement, je vais prendre le cas d'un bureau de poste qui est parisien, qui se trouve dans le 16e arrondissement, qui est le bureau central d'arrondissement, qui est un bureau de poste actuellement qui est en rénovation. Et dans l'entrée du bureau de poste, il est prévu de mettre une boutique. Alors la boutique, ça fait 3-4 ans qu'on nous sort la boutique régulièrement dans tous les bureaux de poste maintenant, puisque c'est la priorité de la poste. C'est cet espace-là qui est prioritaire, avant les guichets d'auto-opération. Et donc, dans ce bureau de poste, la configuration est faite de telle manière à ce que, lorsque l'usager rentre, il est pris dans une sorte d'entonnoir par tous les rayonnages de la boutique, qui cache en plus les guichets qui sont juste derrière. C'est-à-dire que l'usager rentrant ne voit pas les guichets toute opération. Il se trouve pris par ces rayonnages qui lui proposent tout un tas de produits, naturellement, à valeur ajoutée et autres services qui n'ont rien à voir avec la poste, comme des cordes à sauter il y a quelque temps, comme des stylos à parfumer, etc. Donc il se retrouve pris dans cet entonnoir-là. Et en plus de ça, il y a un responsable, ce que la poste appelle un responsable client, qui est là en plus de ça pour essayer, naturellement, de le maintenir dans cet entonnoir. Pour essayer de le maintenir sur une logique d'achat qui serait celui d'un produit à valeur ajoutée. Il faut savoir que les bureaux de poste ont actuellement ce qu'ils appellent un IGP, c'est un indice général de performance qui est basé sur la capacité à générer des marges bénéficiaires, ce qu'ils appellent, globalement, voilà.
À ses millions de clients quotidiens, la Poste a décidé d'offrir un environnement contemporain leurs attentes en matière de services de proximité. C'est la naissance d'une nouvelle génération de bureaux de poste.
Des trucs comme ça, la poste, c'est quoi ça, des suspensions Pinocchio, c'est des petites marionnettes, quoi, c'est
oui,
ça?
Oui, alors je sais pas trop à quoi ça sert.
Mais... Là, il y a des livres bien cuisinés, Tentation sucrée. Le potage plaisir, des petits crayons, c'est ça?
Des petits DVD, CD, des petits livres. Vous n'avez plus qu'à acheter.
Vous avez même des gilets de sécurité.
Oh si, ça vous intéresse.
C'est quoi le rapport avec la poste? Ah oui, là...
On en vend tout, hein. Vous avez bien vu, regardez.
Oh, bonjour.
Oui, je suis bien au partenariat?
Oui.
Bonjour, madame.
Bonjour.
C'est monsieur Lambert, là, pareil.
Oui.
Je vous appelle parce que j'ai une proposition commerciale à faire à la poste.
Oui.
Vous allez voir, c'est assez enthousiasmant.
Oui.
Il se trouve que ça faisait longtemps que j'étais pas allé dans une poste et ça a pas mal changé. J'ai vu que vous aviez maintenant un espace boutique. Qui est vachement bien, avec tout un tas de produits. J'ai même vu des gilets fluorescents et tout, quoi.
Oui.
Et moi, je peux avoir des brosses à dents à très bon marché.
Oui.
Je me disais que ça pourrait être un très bon produit à mettre dans les boutiques de la Poste.
D'accord. D'accord. C'est quand même assez éloigné. Moi, je vous propose d'appeler la direction de l'enseigne, c'est-à-dire la direction des bureaux de poste.
Oui, d'accord.
C'est eux qui pourront se positionner sur ce type de proposition.
Sinon, j'avais une autre idée, mais je vous la soumets comme ça, juste pour discuter. Mais
oui.
des produits frais, style légumes et fruits. Qu'il y ait un espace dans la boutique qui soit produits frais. Comme ça, les gens, parce qu'ils font un peu la queue, quoi, dans les bureaux
oui.
de poste. Et pendant qu'ils font la queue, ils prennent leur ticket. Et en même temps, ils vont faire leurs courses, quoi. Un petit peu comme une épicerie, en fait.
Alors là, ça part. Franchement, voyez avec eux. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, maintenant je m'avance peut-être, mais ce genre de produit dans les bureaux de poste, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Hein.
Moi, je pense que c'est l'avenir, quoi. Mais bon, je vais les appeler.
Voyez avec eux.
Ok, merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.
Pourquoi pas? C'est pas si stupide, les idées de Renaud Lambert. On pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est une sorte de... On a une supérette, un supermarché, puis au bout, il y a la poste, par exemple. Ou bien alors, c'est un sex shop. On vend des vidéos porno, des sex toys, et puis au bout, hop, on achète des timbres, pourquoi pas. Et tout ça, c'est la poste. Et c'est la commercialisation. Vous savez, il faut faire face à la concurrence. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. C'est la concurrence. C'est obligé, c'est obligatoire, c'est la concurrence. On ne sait pas pourquoi, on dit ouverture à la concurrence, ça veut dire qu'il faut lutter contre la concurrence et on doit lutter contre la concurrence. Ah, il y a quelque chose d'un peu international dans la concurrence. Attention, hein, si la France ne se défend pas, les étrangers vont... Alors, hop, il faut... Ça, c'est une obligation. Et puis, il y a les directives européennes. Ça veut dire on n'y peut rien. Ah, on est désolé, on est bien d'accord avec vous, on aurait bien voulu que ça continue comme ça, la poste, le service public, avec le... Non, non, et... Il y a les directives européennes. C'est les deux raisons qu'on avance et qui marchent depuis des années. Et on dit, ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, bah dis donc, il y a les directives européennes. Alors là, il faut se plier, les directives européennes. Si on n'est pas d'accord avec l'Europe, vous savez ce qui nous arrive, hein. On est pour Auschwitz. Ah oui, on nous l'avait dit. En mai 2005, souvenez-vous, on nous l'avait dit. Donc c'est quand même des choses assez intimidantes. Donc voilà, pour les directives européennes. Et puis il y a la concurrence. Sinon, encore une fois, on est archaïque, populiste, stalinien. Enfin, vous connaissez bien cette chanson. Elle commence un peu à grincer, la chanson. Elle commence un petit peu à grincer. On retrouve Philippe Fouillou de Sud PTT.
Ce qui se passe dans les bureaux de poste, c'est qu'il y a l'épée de Damoclès du chiffre d'affaires qui est présente en permanence là jusqu'au plus profond des bureaux de poste. Les agents sont soumis à une pression commerciale. Alors ça se traduit dans un bureau de poste lorsqu'un usager se présente pour par exemple envoyer une lettre à 55 centimes, la démarche que doit faire le postier au guichet, c'est essayer de lui proposer le produit le plus cher.
Alors par exemple, si j'arrive, moi je dis bonjour madame.
Bonjour madame.
Je voudrais poster cette lettre, elle pèse le poids minimum.
Je voudrais envoyer ce courrier, s'il vous plaît.
Donc a priori ça coûte un timbre, 55 centimes, qu'est-ce qu'on va me répondre?
Alors théoriquement, il va essayer de deviner votre besoin. Est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent?
En lettre simple.
C'est quoi la différence?
Il va essayer de trouver l'élément qui lui permettra de proposer le produit le plus cher.
Je sais pas, vous voulez l'envoyer pour qu'elle arrive quand? Demain, en chrono, je sais pas.
Qu'elle arrive
en
plutôt...
Normale, 21 euros pour demain.
21 euros?
Oui.
On va proposer le produit premier qui est le chronopost. qui est, coûte quand même coûte 22 ou 21 euros, si mes souvenirs sont à peu près bons. Après, il y a la lettre recommandée qui est à 5 euros, la lettre suivie qui doit être autour de 2 euros.
Parce que jusque la personne, elle compte vraiment sur ce courrier, ça va lui faire très plaisir. Je veux être sûr que ça arrive. Mais bon, entre 55 centimes et 21 euros, je préfère...
Envoyez-la en lettre suivie, alors seulement. Lettre suivie, ça coûte 2,10 euros. Et là, vous avez un petit numéro. Vous pouvez vérifier si elle est bien arrivée.
C'est beaucoup de pertes ?
Bah, on ne sait jamais, quoi. Je veux dire, y a le risque zéro, ça n'existe pas. Mais...
D'accord.
Bon, après...
Moi, je suis pas suspicieux a priori, mais si la Poste met au point des trucs suivis, ça veut dire que vous perdez les courriers, non ?
C'est normal qu'on ait plein de produits adaptés. Le risque zéro, ça n'existe pas nulle part. Donc après, sur la masse de courriers que la Poste transmet, il peut y avoir une perte. Imaginons que ce soit la vôtre, moi, je suis là pour vous expliquer tout ce qui existe.
D'accord.
Après, si vous voulez l'envoyer comme ça, il n'y a aucun problème. Ça arrivera bien, je pense.
Les chiffres même de la Poste nous disent qu'une lettre ordinaire, en général, arrive à 85% à J+1, c'est-à-dire J+1 le lendemain. Mais là, on est dans du domaine où on n'est plus dans le service public, on est vraiment dans le domaine commercial parce qu'il faut vendre le produit.
Et voilà, après, on a plein de produits, quoi.
Ah, d'accord.
Il y a des moments où il faut être assuré quelque part. Bon, si vous voulez vraiment le savoir, ça, c'est un bon compromis.
Donc il faut commencer par une démarche qui est la désinformation pour arriver à ce qu'on veut, à ce que veut la Poste, c'est-à-dire refourguer le produit qui rapporte.
Chronopost, c'est remis demain.
Ouais, je vais prendre ça.
Christian Causard, ancien directeur général délégué de La Poste.
Alors maintenant, les postiers. Ben, les postiers, ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours vendu des choses. Ils ont bien sûr vendu des timbres. Ils ont vendu des choses. Donc, pour le postier, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas difficulté entre les services marchands et le service public. Il y a complémentarité.
Vous avez compris ce qu'il dit, Christian Causard? Le facteur, vous croyez que c'est le gars qui arrive avec sa musette de facteur et puis dedans, il y a des lettres. Non, il vend des tas d'autres choses, Et ça fait un bout de temps que cette commercialisation donc des produits de la Poste est en route. Et vous le savez bien, puisque un certain nombre d'entre vous fréquentent ces bureaux de poste. On est très, très loin du facteur qui passe de maison en maison et des timbres qu'on va en vélo acheter à la Poste.
Alors, il y a le classique carnet de timbres. Là aussi, c'est pareil. L'objectif n'est pas de vendre un carnet de timbres à l'usager qui en a besoin. C'est essayer de lui vendre une enveloppe timbrée. Et bien entendu, là-dessus, la Poste gagne encore de l'argent. Alors, si c'est qu'une enveloppe timbrée, c'est pas encore suffisant. Il faut essayer de lui vendre le paquet de 10 enveloppes.
C'est quel poids, votre lettre? Je sais pas.
C'est
courrier ordinaire. Ouais, voilà, c'est ça qu'il nous faut.
Lettre suivie.
Et là, ça coûte 2,10 €.
D'accord.
Lettre 20 grammes.
Voilà. Moi, je pense que je vais prendre lettre normale. Hein.
Ah bah, c'est comme vous voulez, mais on les vend par 10.
Il n'y a plus de timbre.
Ah bah si, autrement, il faut faire la queue. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Ah
ouais. Et si on essaye de batailler, comment ça se passe?
Ah bah, la logique, c'est qu'effectivement, on va vous proposer d'aller au guichet si vous voulez absolument avoir un timbre. Et au guichet, vous rencontrerez inévitablement maintenant une file d'attente. Parce qu'il faut savoir que les bureaux de poste de Paris sont rénovés avec juste 2 guichets d'ouvert. Sur des bureaux de poste où autrefois, ils étaient 4 ou 5 positions de travail. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ceux qui veulent vraiment avoir une opération spécifique qui ne rentre pas dans le cadre commercial de la Poste, ils vont faire la file d'attente.
Vous prenez un carnet de timbre, ça sert toujours les carnets de timbre. Vous passez directement à la boutique.
Je n'utilise plus trop, moi.
Attends, mais... ça se garde tout le temps. Je veux dire, derrière ça, vous écrivez, tout ça, vous mettez un timbre.
Mmh. Ah oui, un carnet.
Vous voyez ce que je veux dire?
Comme ça, je n'ai pas besoin de parler à la clé.
Bah, ça me paraît logique, et puis vous passez directement là, c'est plus rapide. Ouais. Après, c'est à vous de voir.
Encore.
Je vous dis ça, bien sûr, attendez. Okay. En plus, on a des jolies lignes, là. De sortir.
Et des tout simples, tout rouges, vous n'avez pas?
Des tout simples, tout rouges. Eh bien non, à la boutique, j'ai pas, moi.
Ah bon, d'accord. Bon, je vais prendre ça, ouais. Merci.
À l'intérieur même du timbre en tant que tel, essayer de lui vendre ce qu'on appelle les timbres philatéliques, c'est-à-dire des timbres qui ne sont pas rouges que tout le monde connaît habituellement, mais lui vendre un timbre philatélique avec une caractéristique particulière, parce que dessus, il y a aussi un moyen pour la boîte de gratter du fric.
Autrement, à propos, vous avez un livret A?
Non.
Vous n'avez pas de livret A?
Non.
Oh, c'est le moment de faire l'ouverture. Alexandra? Ce monsieur n'a pas de livret A. Oh, terrible, monsieur. Alors là...
Vous êtes... ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment archaïque.
Vous êtes client de la Banque Postale, déjà, ou pas?
Non. Mais par contre, il y a des petits gâteaux comme ça, je vais revenir. Hein.
Oui, comme quoi, on a bien fait de parler. Hein.
Bah ouais,
c'est vrai, que trop long.
On va d'abord faire ça, et après, je vais vous prendre en main.
Il n'y avait pas de recommandé. Hein,
bon, non. Très bien.
Christian Causard, ancien directeur général délégué de La Poste.
Nous sommes fiers de servir toutes les populations, donc nos clients... Nos usagers aussi, pourquoi pas, on a le service public aussi. Le mot usager n'a rien de choquant. Eh bien, on a défini un autre concept. c'est les gens. Les gens qui viennent à la poste. Voilà. Nos clients, nos usagers, les Français, les étrangers, les riches, les moins riches, les gens. Voilà notre clientèle.
Quand on aide la confiance à se développer, elle se transmet à tous. Et c'est toute la société qui avance. C'est pour cela que la Poste change, pour faire grandir la confiance. La Poste et la confiance grandit.
Lorsqu'une personne se présente pour un changement d'adresse, le guichetier a consigne d'essayer de vendre par tous les moyens le pack MNA, ma nouvelle adresse, qui comporte toute une kyrielle d'options. Sachant, il faut quand même le savoir, qu'il existe toujours l'ordre expédition classique. La différence entre les deux est quand même de 10 euros, à savoir que le pack MNA coûte 32 euros et le pack ordinaire 22.
J'aurais besoin d'un formulaire pour changement d'adresse, pour suivi de courrier.
C'est un pack qui dure 6 mois.
Ma nouvelle adresse.
Voilà, c'est ça.
Et
il faut
ça coûte,
le déposer 32.
Il n'y a pas un truc près. Moins cher, aux alentours de 20 euros?
Il y a le changement d'adresse normal.
Ouais, c'est ça, je vais prendre ça. Ouais.
Ouais, mais il faut le faire tout de suite. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'acheter aujourd'hui, faire signer votre conjoint.
Ouais, non, je vais faire 10 euros de différence, c'est quand même pas mal.
Après, c'est vous qui jugez. Hein. Mais la différence, c'est que vous avez là-dedans les enveloppes toutes prêtes. Je peux vous l'ouvrir, enfin bon, c'est marqué.
Non,
5 cartes et tous les documents à faire, donc vous n'oubliez rien. Donc,
vous privilégiez celui-là, en fait?
Effectivement, maintenant, il faut privilégier ça. Ah, bah, c'est-à-dire qu'après, c'est vous qui voyez. Hein,
non, mais je vais prendre d'autres, Je vais prendre d'autres moins chers.
Attends, je ne sais pas si on en a encore, je vais demander à ma collègue.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre d'expédition ordinaire à 22 euros se trouve actuellement non pas à la disposition des guichetiers, ils ne peuvent même pas, quasiment pas le proposer puisqu'ils ne l'ont pas sous la main. Ils sont obligés de se déplacer soit dans le bureau du chef d'établissement, soit dans le bureau d'un cadre quelconque. Et lorsqu'ils se déplacent pour aller chercher ce document, ils sont obligés d'expliquer et de justifier pourquoi ils n'ont pas réussi à vendre le pack à 32 euros, le fameux pack MNA.
Voilà. Alors là, je vous explique. Donc là, et il faudra le déposer, c'est marqué 5 jours avant.
Il y a même des bureaux où ce formulaire n'est plus disponible. On va vous demander de le télécharger sur Internet.
On m'a dit qu'il y avait un truc à 20 euros.
22 euros. Sur Internet, ça, uniquement.
Ah, sur Internet?
Ouais, vous pouvez le faire sur Internet. Parce que là, mais vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas le kit complet.
Ouais, enfin bon, je cache pas, comme tout le monde, le pouvoir d'achat, c'est un problème en ce moment.
Vous pouvez le faire sur Internet.
Ouais, d'accord.
Sur Internet, vous pouvez le faire.
Vous n'avez pas le formulaire ici?
Ah non?
Non, vous le faites directement sur Internet.
Ah, d'accord.
Me voilà sur le site de laposte.fr et je cherche mon formulaire. Je me rends de l'espace réservé aux particuliers, à part une page où m'est proposé en assez gros « Découvrez cette semaine les services en ligne de réexpédition et de garde ». Je clique. Voici que s'ouvre une page avec, pour unique proposition, le pack « Ma nouvelle adresse ». Coût 32 euros. Je reviens donc en arrière pour essayer de trouver l'autre option, l'option à 22 euros. Et je ne trouve rien. Je reviens donc sur mes pas, je clique, on me propose à nouveau le pack ma nouvelle adresse, je regarde de plus près et je vois qu'il est possible d'accéder à un site dédié à la réexpédition du courrier. Je clique. S'ouvre une nouvelle fenêtre intitulée « Réexpédition et garde du courrier pour les particuliers ». Une proposition est formulée, pack ma nouvelle adresse, 32 euros. Je reviens en arrière, je clique sur « Outils pratiques », aucune information. Je reviens en une, je clique sur « Envoyer ou recevez du courrier », toutes les offres, envoi courant, envoi sécurisé, service de réexpédition et de garde du courrier, déménagement, pack ma nouvelle adresse. Je reviens en arrière. Aucune autre possibilité. Je reviens en une. On me propose un nouveau lien. Je clique. Aucune information. Je clique sur outils pratiques. Je clique sur envoyer ou recevez du courrier. Je reviens en une. Envoi courant. Toutes les offres. Service de réexpédition et de garde du courrier. Envoi sécurisé. S'ouvre une nouvelle page. Pack ma nouvelle adresse. Coût 32 euros. Mais après tout, le guichetier n'est pas tenu de faire ce qu'on lui dit. Qu'est-ce qui se passe s'il ne respecte pas les objectifs ou il y a des moyens de coercition?
Alors là, la solution qu'a trouvée la Poste, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le visiteur mystère. À savoir que le visiteur mystère, c'est une personne de la Poste, un postier, alors en général des cadres, qui se présente comme étant un usager ordinaire et qui demande un service tout à fait ordinaire. Et ce qui les intéresse à ces visiteurs mystères, c'est voir comment est déclinée donc la méthode commerciale, si elle est bien déclinée. Et si, au bout du compte, l'agent, le guichetier qui tient sa position de travail, a bien fait son travail en termes de vendeur.
Bonjour, je voudrais poster une lettre, s'il vous plaît.
Oui. Voilà. En courrier ordinaire?
Ouais.
55.
Vous ne proposez pas d'autres tarifs?
Ben non, je vous ai demandé courrier ordinaire, vous m'avez dit oui.
Et si j'étais visiteur mystère, vous seriez embêté ou pas?
Oui, c'est vrai. Oui, mais oui, c'est vrai.
Normalement, vous devez proposer aussi un chronopost.
Soit, voilà, soit le chronopost, soit le suivi, soit le recommandé. C'est vrai.
Merci. Vous feriez taper sur les doigts?
Très. Vous êtes un visiteur mystère?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Vous voulez que je vous cherche un responsable?
J'aimerais bien, oui.
Suite à cela, donc le visiteur mystère ne s'arrête pas là. Il demande immédiatement d'avoir le chef d'établissement pour, effectivement, avoir un entretien individualisé avec l'agent.
Bonjour madame.
Oui, visiteur mystère.
Bon, voilà, je demande simplement un affranchissement. Il me semblait que c'était clair que maintenant on devait proposer d'autres services, comme on se casse un peu la tête pour les mettre au point. Voilà, on m'a pas parlé de chronopost ou quoi que ce soit. Donc, je voulais savoir si c'est arrivé jusqu'ici ou non, quoi.
J'ai juste demandé si c'était un envoi ordinaire et c'est vrai que comme il m'a dit oui, j'ai juste collé un terme.
Vous connaissez le principe quand même?
Ah oui, bon ça, oui. On n'est pas de la première visiteur.
C'est pas parce que c'est la fête qu'on respecte pas les consignes, quoi.
Ils sont jamais satisfaits, bien entendu, parce qu'il faut continuer, même toujours s'améliorer. L'optique n'est pas d'être un professionnel, l'optique est de vendre. On ne demande pas à un agent aujourd'hui d'avoir une connaissance professionnelle de son outil de travail en tant que tel, c'est-à-dire connaître la réglementation et la réglementation en termes de courrier, la réglementation de services financiers. Là. On lui demande avant tout de vendre.
Pas employé,
que j'annule ou pas la vignette?
Non, mais vous embêtez pas, madame. En fait, je ne suis pas du tout visiteur mystère, mais je vais prendre. Je suis journaliste. Et je voulais vérifier que ça existait bien, un visiteur mystère.
Oui, oui. Non, vous savez.
Vous aviez l'air assez livide quand même.
Bah oui, parce qu'en général, on se fait disputer. On a des consignes, effectivement.
Vous inquiétez pas, je suis désolé d'avoir fait une petite frayeur.
Ça, c'est pas gentil.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Vue à la poste, donc, cette scène. Par contre, la suivante, peu de chance que vous l'y voyez. Bonjour madame, je voudrais poster cette lettre, s'il vous plaît.
Bonjour monsieur, oui, donc un chronopost, ça vous fera 21 €, monsieur.
Attention madame, je suis visiteur mystère. Souvenez-vous que votre mission est une mission de service public. Pourquoi donc me proposer un service à 21 € lorsque vous savez pertinemment que vous pourriez me proposer un timbre à 55 centimes?
Oh, oui, je suis désolée, j'oublie toujours. Merci visiteur mystère.
Cette logique commerciale, elle amène naturellement à toutes les dérives possibles et imaginables.
Philippe Fouillou, délégué syndical à Sud PTT.
Là, encore récemment, nous sommes intervenus au niveau de la direction de Paris, parce que dans un bureau de poste, il faut savoir qu'il y a deux types de colissimo. Il y a le colissimo ordinaire et le colissimo recommandé. Eh bien, chaque établissement, pour essayer de faire du chiffre d'affaires, avait tout simplement retiré des guichets l'alias colis ordinaire et leur disait, voilà, ça vous dit aux clients, aux usagers, que ça n'existe plus, qu'il faut insister sur le colissimo recommandé.
C'est de la vente forcée, c'est de la vente forcée, ça.
C'est vraiment la vente forcée. On est obligé d'intervenir au niveau de la direction de Paris pour que ces pratiques cessent. Bon, on en arrive à ce genre de dérive régulièrement. Et une anecdote m'est arrivée il y a quelques années de ça, où un collègue d'un bureau de poste m'avait appelé en disant, voilà, on a un souci local. Il m'a expliqué le contexte. Ce bureau de poste, sur son tableau de marche, je dirais, était largement en retard par rapport à certains d'autres bureaux de poste, et qu'ils avaient un challenge sur un produit spécifique, qui était l'enveloppe à 250 grammes, chronopost, à l'étranger. Et il y a un agent qui était parti dans une dérive, à savoir qu'un usager s'était présenté pour envoyer une thèse à l'étranger, et cet agent avait proposé de lui diviser en 4 la thèse, parce qu'elle faisait 1 kg, pour lui permettre donc de mettre ces 4 morceaux de thèse dans des enveloppes qui correspondaient à un poids de 250 grammes.
Alors qu'elle aurait pu le faire dans la même...
Alors qu'il aurait pu le faire dans un produit chronopost, mais qui n'était pas, à l'époque, ne faisait pas partie du challenge.
Votre histoire de chronopost à 250 grammes, qui sont les seuls qu'on souhaite vendre, et donc d'une thèse qu'on va adapter au produit qu'on souhaite vendre, ça fait un peu penser à l'histoire du tailleur de Fernand Reynaud, qui va voir son tailleur, qui lui a fait un costume qui lui tombe pas bien dessus. Et en fait, le tailleur va déformer Fernand Reynaud pour qu'il soit adapté au costume. Finalement, c'est à l'usager de s'adapter à ce qu'on souhaite lui vendre.
C'est ce que désire la Poste. Hein. La Poste ne veut pas servir, n'est plus dans une logique de servir l'individu, mais elle veut surtout que l'individu s'adapte à ce que veut lui vendre la Poste. On n'est plus du tout dans la même logique. C'est transformé véritablement, structurellement parlant, la Poste en termes de logique de service public, en logique purement marchand, dans lequel, effectivement, c'est l'usager qui doit se plier aux desiderata de la boîte.
«
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre vous met en émoi. Chacun se dit peut-être, il y en a une pour moi. Voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde s'évite avec joie. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi, comme ses lettres et ses colis. Tiens, voilà le facteur. Il apporte le journal et son bonjour matinal. L'été, quand il fait beau, il vous dit il fait chaud. Mais quand tombe la pluie, il vous dit ça pleut aujourd'hui, hein. Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. Et pour les plis très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent, mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y'a rien. Tiens, voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, facteur, et à demain.
Étré au pont, le 24 septembre 2008. À monsieur le directeur de la Poste. Monsieur. Alors qu'hier, le journal de 20h nous montrait des images de la manifestation contre la privatisation du capital de la Poste, une réforme bien plus sournoise et bien plus silencieuse frappe nos campagnes. La fermeture des bureaux de poste dans nos villages.
Étré au pont, le 4 juillet 2008, je sous-signais monsieur Cavignac-Claude en tant que commerçant et citoyen de la commune d'Étré au pont. Je n'accepte pas vos décisions pour la fermeture de la poste l'après-midi.
Alors, monsieur le maire, nous sommes naturellement d'accord pour vous apporter notre soutien dans votre démarche contre la fermeture de votre bureau de poste les après-midi.
Je suis notaire à la résidence d'Étré au pont depuis près de 25 ans et je m'associe naturellement à la demande de l'ensemble des habitants d'Étré au pont pour le maintien actuel des plages horaires du bureau de poste.
Nous sommes en tant que commerçants totalement opposés à cette fermeture.
Vous ne pensez pas du tout aux personnes âgées, les personnes sans voiture et aux conséquences que ça peut faire.
La Poste avait toujours jusqu'à présent une image de service public. Quand va-t-on cesser de penser trop court et de regarder uniquement le critère de productivité immédiate?
Cette décision me paraît inacceptable pour le village et les commerçants.
Cette réduction d'amplitude horaire ne pourra que conduire à un ralentissement de notre activité commerciale dont nous n'avons pas besoin dans notre tirage actuel, déjà bien touché dans le manque de services publics et surtout d'activités commerciales.
Notre postier est un interlocuteur de choix. Que restera-t-il de ses compétences dans un point poste?
C'est pour cela que je soutiendrai... Ah oui, la commune, excusez-le. Pour le maintien de l'ouverture de la poste toute la journée.
Laissez-nous vivre dans nos campagnes. Oui. Ne touchez pas à notre poste.
Signé Jean-Claude Tourné, Alimentation Générale à Étré-au-Pont.
Je vous prie d'agréer, monsieur, mes sincères salutations.
En espérant que ce courrier vous aidera à aboutir, veuillez agréer, monsieur le maire, nos sincères salutations.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations, monsieur boucher, charcutier, traiteur.
La population est solidaire de l'action entreprise par le conseil municipal des Tréaupons et décidée à mener des actions vigoureuses à l'encontre de ces propositions. Veuillez agréer, monsieur le maire, chers collègues, l'expression de mes sentiments distingués. C'est le maire d'Autrèpe, monsieur Paul Basse.
Voilà. Autrèpe, une commune à côté. Hein.
Une commune à côté, oui, à quelques kilomètres.
Là, on est petite ville, bourgade, du Thiérache, dans l'Aisne, et Étré au pont, donc, s'est mobilisé. Alors, c'est tout le monde qui s'est mobilisé, depuis l'épicier, en passant par le pharmacien, en passant par tout le monde, le marchand de vin, pour dire non à la fermeture du bureau de poste d'Étré au Mont. y compris Étienne Taquet, licencié en droit, notaire, successeur de Maître de Caen.
Maître Taquet, vous êtes notaire à Étré-au-Pont. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on fait le tour d'un petit village comme Étré-au-Pont, il y a un petit peu plus de 900 habitants, c'est que la poste, loin d'être un commerce comme les autres, c'est un peu la clé de voûte qui permet la vie de toutes les personnes qui y travaillent et qui résident à Étré-au-Pont.
Tout à fait, c'est un peu le lieu central, effectivement, de l'activité économique du village. Et c'est vrai que c'est la poste, outre sa fonction, effectivement, de transmission du courrier, est un service auprès de la population. Et si c'est une suppression de ce service qui aurait lieu au détriment et au mépris des personnes les plus défavorisées, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, les personnes âgées ou les personnes à faible niveau de vie.
Pourquoi est-ce que ça serait plus particulièrement problématique pour les personnes qui ont un faible niveau de vie?
Je pense qu'ensuite, ils seront obligés, pour toutes leurs démarches administratives et postales notamment, d'aller vers d'autres communes. Donc, sans moyen de locomotion, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi la collecte des fonds par la poste, qui est la banque, postale, comme on l'appelle maintenant. Elle s'appelle la banque, donc elle doit maintenir un service de proximité.
Alors ici on s'est bagarré, enfin on se bagarre à Étré-au-Pont pour défendre nos bureaux de poste. Hein.
Ah bah oui, on s'est déjà bagarré plus d'une fois, hein. C'est déjà combien, la deux, troisième fois. Hein. C'est essayer de les faire céder, mais vous croyez qu'ils vont demander notre avis?
De toute façon, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Quand on en reparle, c'est déjà fait.
Bon, on va essayer de se battre jusqu'au bout. Il faut continuer à se battre, autrement, si on laisse faire, il n'y aura plus rien.
Monsieur le maire, comment on s'est organisé ici à Étré-au-Pont pour mener la bataille?
Alors, en premier lieu, donc, j'ai été contacté par les dirigeants de la poste qui m'ont fait cette proposition de fermeture l'après-midi. Et de ce fait-là, donc, nous en avons parlé en conseil municipal. Donc, nous avons voté une délibération qui nous s'opposant fermement à ce projet. Ensuite, on a contacté donc les commerçants et les artisans du village qui se sont opposés fermement. Et la population s'est mobilisée parce qu'il y a une pétition qui a circulé dans le village. Et on a récolté plus de 500 à 600 signatures.
Sur 940 habitants.
Voilà. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que les gens étaient très attachés à leur bureau de poste et aux services qu'il apportait. Le fait de privatiser, c'est vrai que c'est rentré dans le monde du capitalisme. Et c'est vrai qu'on en oublie, là, le service rendu à la population. On en oublie aussi les hommes. Et ça, c'est bien dommage.
Alors là, on est en pays de tirage, c'est ça, un pays où on a l'habitude de se battre. Les églises sont fortifiées, on a résisté à l'envahisseur. Et c'est aussi une lutte pour l'identité, quoi. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui me disait... On nous a tout retiré ici, c'est un peu le dernier rempart, on ne veut pas qu'on touche à notre bureau de poste, on ne veut pas disparaître. Quoi.
Voilà, alors c'est vrai que, je dirais, on combat l'envahisseur. On est dans une région où il y a eu beaucoup de passages d'invasion antérieurement, et c'est vrai qu'on a peut-être encore la fibre de défense, la fibre de défendre nos intérêts, justement, et le combat au sujet de la poste est un de nos combats.
On va fortifier la poste contre les financiers.
Bientôt, oui.
C'est parce que tout le monde est de gauche ici qu'on veut défendre les services publics
ou soit de gauche ou de droite. Un service public, c'est un service public. Je sais pas, il n'y a pas de politique à rentrer dans la poste, je sais pas.
C'est bien. Alors, il faut que notre poste reste. En toute confiance, je vous fais confiance. Hein. Je regarde le ciel en même temps.
C'est pas moi qui vais décider, madame.
Non, je sais, mais enfin, ça serait dommage. Normalement, ça doit marcher.
Je vais aller faire écouter ce que vous m'avez dit à monsieur Bailly, le patron de la poste.
D'accord. Enlever pour moi la poste, c'est enlever ma vie.
On va lui faire entendre ça.
Eh bien, c'est très gentil, monsieur. Très gentil. Allez, au plaisir. Au revoir. C'est tout ça.
Voilà, en commençant en disant qu'il n'y a que de longues luttes qui aboutissent, eh bien, le bureau de poste d'Étré-au-Pont et tous ceux qui ont contribué à ce qu'il reste ouvert l'ont emporté. Renaud Lambert s'était rendu là-bas en 2008 pour ce reportage. Eh bien, il est finalement toujours ouvert les après-midi
en semaine. C'est une victoire sans doute précaire, mais que les habitants ont tout de même remporté et qui suppose et qui exige de leur part beaucoup de vigilance. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à Philippe Fouillou de Sud PTT, à Valérie, à Sylvie, à Maître Taquet et à tous les habitants des Tréauxponts. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Également sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez également écouter cette émission à la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Yann Malichewski. Koy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, modeste générale, il faut quand même bien le reconnaître. Assisté d'Agnès Lebot et Marina Touillez, attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et n'oubliez pas, le capitalisme a besoin que nous ayons envie de ce dont nous n'avons pas besoin.
France Inter présente Sweeney Todd au Théâtre du Châtelet du 22 avril au 21 mai. Après A Little Night Music, le Châtelet présente l'autre grande comédie musicale de Stephen Sondheim, Sweeney Todd ou le diabolique barbier de Fleet Street. Un vrai thriller musical aussi hilarant qu'inquiétant. Retrouvez Sweeney Todd dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, à demain. 15h pour la base où j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Antoine Balandra. Salut.
Que s'est-il passé dans cette famille jusque-là sans histoire de Nantes? 6 personnes sont portées disparues depuis le 4 avril, dont 4 enfants de 13 à 21 ans. Aucun signe de vie et une découverte macabre aujourd'hui. Une jambe a d'abord été retrouvée sous la terrasse du domicile familial, puis les restes d'un corps qui semble lui correspondre. Une enquête pour séquestration et assassinat est ouverte. Direction la Seine-Maritime et Le Havre pour Nicolas Sarkozy, visite dans le deuxième port français, le premier même en termes de trafic conteneur. L'occasion pour le chef de l'État de reparler encore social à un an de la présidentielle. Nicolas Sarkozy a défendu l'idée de la prime aux salariés, un principe de justice selon lui.
La justice qui nous est réclamée aujourd'hui, c'est pas de créer de nouvelles allocations, les gens n'en veulent pas. Ils ont parfaitement compris que l'assistanat n'était pas une solution. Mais ils veulent que ceux à qui on demande des efforts quand ça va mal, ils bénéficient de la reprise quand ça va mieux. Et la règle que nous avons fixée avec le gouvernement et le Premier ministre, c'est que quand une entreprise sert à ses actionnaires des dividendes supérieurs à ce qu'ils étaient l'année précédente, c'est tant mieux. Eh bien qu'ils soient obligés de négocier dans l'entreprise pour que les salariés aient une petite part de cette réussite. Je crois que c'est juste. Alors j'ai vu se dresser devant moi les murs du conservatisme et de l'immobilisme. À gauche parce qu'on aurait aimé le faire et qu'on ne l'a jamais fait. À droite parce que c'est trop. Au centre parce que c'est pas encore assez. Moi ce que je veux c'est que ça avance. Et toutes les entreprises seront concernées.
Et pourtant, le principe même de cette prime est critiqué chez les syndicats de salariés et au MEDEF. Ce matin, François Chirac, le numéro 1 de la CFDT, a parlé de cadeaux aux entreprises et de freins aux augmentations de salaire. C'est le journal Le Monde qui révèle l'information. Nicolas Sarkozy ne pourra pas se constituer partie civile. C'est incompatible avec ses pouvoirs institutionnels. Voilà ce que dit un arrêt confidentiel du parquet général de la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy s'était constitué partie civile dans l'affaire de son compte piraté. C'était la première conférence de presse d'EDF depuis la catastrophe nucléaire au Japon. Le PDG Henri Proglio devait parler des enseignements post-Fukushima. L'occasion choisie par Greenpeace pour passer à l'action. Des militants ont escaladé l'immeuble d'EDF à Paris. Ils ont déployé une banderole. Le nucléaire sûr n'existe pas. Et puisqu'on parle de Fukushima, un violent séisme a été ressenti il y a quelques minutes à Tokyo, au Japon. L'épicentre se situerait dans la région de Chiba, juste à l'est de la capitale. Séisme de magnitude 6,3. L'économie de la Côte d'Ivoire va sans doute pouvoir respirer un peu. L'Union africaine annonce la levée des sanctions contre le pays et cela après la prise de pouvoir par le président Alassane Ouattara. Et puis à Haïti, le chanteur populaire Michel Martelly, officiellement vainqueur de la présidentielle du 20 mars dernier. Il recueille 67% des voix selon la commission électorale et devrait prendre ses fonctions le 14 mai.
Tous les jours,
Mais oui, vacances, hein, c'est
à
bien.
Partir de 11h.
Comment vous avez eu cette idée?
Le fou.
Ben, je suis roi.
Stéphane Bern.
Vous avez bien plombé l'ambiance, là.
Mais non.
Retrouvez Stéphane Bern et toute son équipe demain vendredi dans Le Fou du Roi en compagnie de François-Xavier de Maison.
On va pas y arriver.
Le Fou du Roi.
Ben oui, oui,
tous
oui.
Les jours sur France Inter à partir de 11h.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements du jeu des 1000 euros dans les Hautes-Pyrénées, aujourd'hui à l'Alanterie à 18h30 et demain dans le Gers à Durand, 18h30 également. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter. La différence.
16h04 sur Inter, c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonsoir.
Et bonjour même, bonjour. Antoine, encore.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, voilà un beau disque qui va paraître bientôt, le 28 avril, dans une petite semaine, donc un peu d'impatience forcément quand on entend que un nouvel enregistrement des sœurs Katia et Marielle Labec se profile, mais évidemment, on est toujours très très heureux, de belles personnes, pleines de liberté, de musicalité, de sourire, elles ont enregistré des pièces qui sont dans le droit fil de la musique américaine, on dirait presque le père et le fils, parce qu'il y a d'abord Gershwin, ensuite Leonard Bernstein, et la musique américaine un peu influencé par la vieille Europe. Bien sûr, ça donne des résultats prodigieux. On connaît bien la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Voici un peu de la version originale pour deux pianos. De Rhapsody in Blue de George Gershwin par Katia et Marielle Labec à paraître la semaine prochaine chez KML Recordings. Donc c'est pas une marque d'aviation, hein. KML, c'est-à-dire Katia et Marielle Labec, et pas l'inverse, pas interchanger les lettres. Et on trouve aussi West Side Story, Leonard Bernstein, et c'est une transcription pour deux pianos et percussions d'Irwin Costal. Costal qui a été le chef d'orchestre de la bande-son de Fantasia de Walt Disney, entre autres, et puis qui est un arrangeur qui a été très très important pour la musique du cinéma et la musique américaine en général. Donc des percussions, et puis pourquoi pas, parce que c'est une œuvre chantée, dansée, très spectaculaire, qui peut supporter évidemment toutes sortes d'arrangements. Tonight.